le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marsili.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Et un salut particulier à nos auditeurs. Vous avez été particulièrement nombreux pour notre épisode de rentrée. Cela nous renforce dans l'idée de repartir de plus belle.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Alors que la reine Elisabeth II vient de nous quitter, nous reviendrons sur le rôle du Commonwealth et les défis auxquels il est confronté.
Nous parlerons du traitement politique et médiatique de la question environnementale, qui est aussi souvent, malheureusement, entre superficialité et moraline.
Nous reviendrons sur cet ovni institutionnel que constitue le Conseil national de la refondation.
Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine.
Alors Romain, au cours des derniers jours, évidemment, les médias et tout le monde a énormément parlé de la disparition de la reine Elisabeth. Alors on ne va pas redire beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'à titre personnel, toi et moi, comme énormément de gens, on a été touchés parce que finalement, elle représentait probablement certaines qualités que notre époque semble avoir oubliées. Une forme de pudeur, le travail, le fait que tout choix est un sacrifice, que parfois on occupe des fonctions qui dépassent sa propre personne. Et puis également, quelque part, ces 70 ans de règne, c'est aussi un éloge du temps long. Cette idée que si elle est très populaire aujourd'hui, elle est aussi passée par des périodes où elle était très critiquée. Et c'est parfois accepter que l'on n'est pas compris par ses contemporains et pour autant constamment continuer d'accomplir son devoir jusqu'au bout, comme elle l'a fait avec Liz Truss. Et donc, je crois que c'est un petit peu toutes ces qualités, moi, qui me touchaient beaucoup. Et puis, un rapport aussi à la France. Et je dois dire qu'à cet égard, le mot du président de la République, Emmanuel Macron, qui a été adressé après la disparition de la reine Elisabeth II, était très élégant et très bien écrit. Et puis, il rappelait notamment le fait que finalement, elle a fait 7 visites d'État, je crois, 6 ou 7 visites d'État en France. Elle a survécu à 10 présidents français, donc elle avait aussi un lien très intime avec la République française. Et je crois que toi aussi, c'est un petit peu toutes ces qualités qui te touchaient chez la reine.
Oui, il y a un mot qui a souvent été prononcé ces derniers jours, qui était celui de dignité. Effectivement, sans faire d'Elisabeth II une sainte, c'était une incarnation de la dignité, et puis peut-être plus largement, une des rares incarnations politiques contemporaines, quelque chose que j'aime beaucoup, ce mos maiorum romain, c'est-à-dire cet ensemble de vertus qui peuvent faire la grandeur d'un individu, quel que soit son rang, d'ailleurs, en politique ou non. Parmi ces vertus, tu en as cité quelques-unes, mais je pense qu'elle incarnait plus particulièrement encore, par définition, la majestas, cette majesté, mais aussi cette gravitas, on l'a vu dans beaucoup de moments, et puis quelque chose qui est très important politiquement, la virtus, c'est-à-dire le courage politique dont elle et une partie de sa famille ont su faire preuve durant la guerre. Et d'ailleurs, on pourrait dire que ces valeurs romaines, ces valeurs antiques, à l'origine sont républicaines finalement, hein, à Rome, se sont particulièrement retrouvées dans ce monarque. Et puis, s'il est bien sûr impossible de savoir ce que le temps et les siècles retiendront de ce règne, on retient souvent, et c'est sur une autre note, mais on retient souvent des grands règnes des monarques et des grands noms dans les arts. Alors, le grand siècle de Louis XIV, c'est aussi, et peut-être même surtout, le siècle de Molière, de La Fontaine, Pascal, Corneille, Racine, et tant d'autres, on va pas tous les citer. Et de même, on associe à Élisabeth première du nom le théâtre élisabétain, bien sûr Shakespeare. Alors, toujours difficile, impossible de savoir ce qui va résister au temps, mais s'il y a bien un domaine durant lequel le Royaume-Uni, durant le règne d'Élisabeth II, aura marqué le monde entier, c'est bien la musique. Voilà, il y a une musique que j'aime beaucoup, tu le sais, avec le foisonnement de groupes majeurs, des Beatles aux Kings, en passant par les Stones, Bowie et tant d'autres. Et ce qui est amusant, c'est que la reine a toujours suivi ces mouvements, puisqu'elle a quand même anobli un grand nombre de ces grands artistes, de McCartney à Ray Davies, et voilà. Donc voilà, comme tu l'as dit, elle a marqué l'histoire. Rarement un règne aura vécu tant de bouleversements dans son royaume, très long règne. C'est le lot de toute cette génération d'ailleurs, hein, toutes ces personnes qui sont nées dans les années 20, qui ont vu des bouleversements techniques, historiques, sociologiques, sans commune mesure. Et puis, surtout, on peut dire qu'Elisabeth est sûrement la dernière monarque qui aura régné sur un empire mondial, et peut-être qu'il n'y en aura plus comme elle. Et c'est justement un point qui nous intéresse et qu'on voulait évoquer plus particulièrement, c'est le rapport de la reine au Commonwealth. Puisque au début de son règne, Il n'y avait que 9 pays dans cette organisation. Il y en a 56 à sa mort. Ça représente à peu près le tiers de la population mondiale. Et c'est une réussite de son règne qui est assez fascinante.
En effet. Est-ce que tu connais, Romain, la théorie des trois cercles ?
Dis-moi.
Alors, c'est une théorie qui avait été développée après la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill, et en fait, qui était toute simple. Churchill voyait le Royaume-Uni au centre de trois cercles qui s'entrecroisaient, l'Europe, le Commonwealth et les États-Unis. Et en fait, c'était intéressant parce que durant tout l'après-Seconde Guerre mondiale, Churchill et puis ses successeurs, et notamment Anthony Eden, Macmillan, ont essayé en fait de trouver cet équilibre avec l'appartenance au Commonwealth, la relation spéciale avec les États-Unis et puis un lien avec l'Europe qui était à dessiner. Et en fait, quand on voit ensuite l'évolution de la politique britannique, évidemment lorsque le Royaume-Uni rentre dans ce qui n'était pas encore l'Union européenne, mais à l'époque la Communauté européenne en 73, il va y avoir petit à petit un centre de gravité qui va basculer vers l'Europe. Des liens plus forts, politiques, économiques. Ce qui est frappant, alors tu auras une relation spéciale avec les États-Unis qui va quand même connaître des sommets. On pense notamment à la période Thatcher-Reagan où il y avait ce lien très très fort. Reagan disait que Thatcher était la femme la plus importante dans sa vie et Thatcher disait de même de Reagan.
C'est beau l'amour.
C'est beau l'amour, tout à fait. Il y a eu la période aussi Blair-Clinton qui était aussi une relation très forte entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais malgré tout, le centre de gravité britannique était côté européen. Et ensuite, en 2016, au moment de la campagne du Brexit, ce qui a été frappant, c'est qu'un argument qui est beaucoup revenu chez les Brexiteurs, c'est de dire, si je les résume en quelques mots, finalement, aujourd'hui, l'histoire ne s'écrit plus en Europe. Là où le monde est dynamique, c'est ailleurs, c'est en Asie, c'est en Afrique, c'est en Amérique latine, c'est finalement des territoires, ceux du Commonwealth. Et donc, plutôt que jouer la carte européenne, on devrait aller vers, et ensuite ça a été le concept de Global Britain développé sous Johnson, vers un Global Britain qui s'appuierait sur le Commonwealth.
Eh bien, justement, ce Global Britain, on peut en parler deux secondes, puisque toujours difficile de voir ce qui relève du slogan dans le cadre d'une campagne électorale, et puis ce qui relève d'une vraie stratégie, parce qu'on pourrait penser que le Global Britain, Brexit ou non, ce serait presque un pléonasme, tant les Anglais, par leur langue, leurs mœurs, leur politique et surtout leur vision des échanges économiques, ont façonné la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, et même si, bien sûr, le cœur de la mondialisation est depuis au moins 70 ans, les États-Unis. Et puis, on pense à ce que Churchill aurait confié, je crois que c'était à De Gaulle, chaque fois que nous devrons choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons le grand large. Je ne sais pas si c'est apocryphe ou réel, mais en tout cas, cela est bien connu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment du nouveau là-dedans, dans ce Global Britain, ou est-ce qu'il s'agit d'un artifice de com qui cache en fait une perte d'influence progressive, mais certaine?
Et en fait, surtout, tout ce que je viens de te décrire, le raisonnement des Brexiteurs durant la campagne, et le raisonnement qui est encore tenu aujourd'hui, par exemple, par quelqu'un comme Liz Truss, malheureusement, s'appuie sur une fondation qui est extrêmement fragile, et surtout sur la non-prise en compte de l'évolution de l'histoire. Parce que quand le Commonwealth a été fondé, évidemment, il était très centré vers le Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le Royaume-Uni, c'est une illusion de penser qu'il peut redessiner sa politique étrangère avec d'autres puissances non européennes. D'abord parce que le Royaume-Uni, il faut quand même le rappeler, dépend très largement d'abord de l'Union européenne. Aujourd'hui, je rappelle que quand même 52% des importations du Royaume-Uni, c'est vers l'Union européenne. Plus de 45% de ses exportations, c'est vers l'Union européenne. Par contraste, le Commonwealth, c'est simplement 10% de ses importations, 11% de ses exportations. Aujourd'hui, si tu regardes un pays comme l'Inde, qui est un des grands membres du Commonwealth, l'Inde échange plus avec l'Allemagne qu'avec le Royaume-Uni. Aujourd'hui, ça peut paraître anecdotique, mais les îles Samoa, ces petites îles, par définition, elles ne peuvent pas avoir un grand service diplomatique. Quand elles décident d'ouvrir une ambassade en Europe, elles l'ouvrent où ? Eh bien, elles l'ouvrent à Bruxelles, elles l'ouvrent plus à Londres. Et donc, en fait, là où il y a quelque chose de très erroné dans le raisonnement de ceux qui ont défini Global Britain, c'est que pour le Commonwealth ou pour les États-Unis d'ailleurs, le raisonnement s'applique de la même manière. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Et le Royaume-Uni était intéressant parce qu'il était une porte d'entrée pour le Commonwealth ou pour les États-Unis dans l'Union européenne. Dès lors que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, le Royaume-Uni perd considérablement de son intérêt. Et même s'il peut y avoir un attachement affectif de ces pays au Royaume-Uni, le pragmatisme les amène à d'abord privilégier par exemple dans le domaine commercial des accords de libre-échange avec l'Union européenne, pas avec le Royaume-Uni, dans le domaine de la sécurité et de la défense, une alliance avec l'Union européenne, parce que à terme, même si le Royaume-Uni a une armée digne de ce nom, c'est quand même l'Union européenne, et notamment à un moment où l'Allemagne se réarme, qui aura les capacités militaires d'être un allié crédible en matière de défense. Et ça, tu peux le répliquer un petit peu à tous les pans de la politique. Et juste dernier point, là où il y a en plus une contradiction considérable dans la Global Britain telle qu'elle a été mise en œuvre, notamment sous Boris Johnson, c'est qu'un des rares leviers qu'aurait pu utiliser le Royaume-Uni pour renforcer son influence, notamment dans les pays du Commonwealth, c'était l'aide au développement. Or, qui a supprimé le département de l'aide au développement ? C'est Boris Johnson. Qui a coupé substantiellement les fonds de l'aide au développement durant sa position de Premier ministre ? C'est Boris Johnson. Donc, en fait, ils se sont aussi un petit peu coupé la possibilité de continuer d'influencer, même de manière assez légère, le Commonwealth. Donc tout ça est un peu une illusion, et le principe de réalité fait que, à terme, de toute façon, le partenaire naturel du Royaume-Uni, ça demeurera, qu'il le veuille ou non, l'Union européenne.
Oui, c'est pour ça que je suis peut-être moins inquiet que toi par rapport à la situation de nos amis britanniques. Je pense qu'ils s'en sortent toujours, mais l'histoire dira quelles seront les conséquences réelles de ce Brexit. Mais tu parlais d'influence. Justement, si on voulait un peu provoquer les Anglais, on dirait que l'une des manifestations les plus visibles du Commonwealth aujourd'hui, finalement, ce sont les Jeux du Commonwealth, qui sont un peu les JO des anciennes colonies ou anciennes dominions britanniques. Parce qu'on a l'impression que le Commonwealth, c'est avant tout du soft power culturel, certes fondamental, mais beaucoup plus que du hard power ou même que du traité exigeant. Alors, est-ce que le défi de Charles, maintenant, ça va justement être celui de maintenir et de renforcer cette organisation dans un monde multipolaire ? Pour toutes les raisons que tu as évoquées, on a bien vu les difficultés. Bon, on a quand même des défis à venir qui sont passionnants.
Oui, des défis passionnants. Et c'est vrai que pour revenir à Elisabeth II, sa très grande force, ça a été de donner une âme au Commonwealth. Parce qu'il ne faut pas croire que la décolonisation britannique a été un long fleuve tranquille. Je rappelle quand même, c'est souvent oublié, mais dans les années 50 au Kenya, il y a eu des répressions absolument terribles. Ça a été une décolonisation extrêmement brutale. Le fait est que Elisabeth II, elle avait un attachement extrêmement fort, quasi viscéral au Commonwealth. Elle a beaucoup contribué à apaiser les relations post-colonisation entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, a donné effectivement ce soft power au Commonwealth qui, par contraste notamment pour nous avec la francophonie, aujourd'hui fonctionne. Et ce qui est frappant d'observer, c'est que le Commonwealth est aujourd'hui extrêmement attractif parce que le Commonwealth, tu le disais, c'est 56 États membres, mais quand tu regardes les derniers qui l'ont rejoint, ça n'est pas d'anciennes colonies britanniques. Tu as eu le Mozambique, qui était une ancienne colonie portugaise, mais tu as eu aussi, et ça avait été quelque chose qui avait été mal perçu en France, le Rwanda en 2009, qui est aussi membre de la francophonie, qui avait rejoint le Commonwealth, et plus récemment, en juin 2022, donc très récemment, le Togo et le Gabon, qui étaient quand même historiquement au cœur de la France-Afrique et de l'Empire français, qui ont rejoint le Commonwealth. Donc, il y a un pouvoir d'attraction. Mais je crois que ça, c'est parce qu'Elisabeth II, et c'était Simon Chama, qui est probablement le plus grand historien contemporain britannique, écrivait il y a quelques jours qu'Elisabeth II était arrivée à créer ce sentiment de grande famille où tous les membres du Commonwealth sont sur un pied d'égalité et peuvent échanger une fois tous les deux ans lors des sommets de chefs d'État. C'est vrai que, par contraste, c'est ce que la francophonie n'est pas arrivée à faire. Et c'est, je pense, aujourd'hui, ça devrait être un des grands défis de notre diplomatie. Parce que, de la même manière que je mentionnais la théorie des trois cercles de Churchill, on pourrait presque l'appliquer aujourd'hui à la France et considérer que la France, elle a un pilier essentiel, effectivement, l'Union européenne. Elle a une relation, malgré l'anti-américanisme primaire qui inonde des grands pans de notre société française, l'allié américain demeure quand même essentiel. Mais on pourrait, je pense, et on devrait beaucoup plus s'appuyer sur la francophonie, miser sur ce réseau diplomatique qui a un potentiel extraordinaire et qui est aujourd'hui sous-utilisé.
Oui, ben c'est ce qui saute aux oreilles en t'écoutant. C'est-à-dire, c'est combien les situations britanniques et françaises diffèrent quand on compare les relations aux anciens territoires et aussi sur l'attractivité. Mais sans faire de caricature, et puis au-delà des intérêts économiques et politiques, on pourrait dire qu'il y aurait d'un côté historiquement. Un réalisme britannique qui a vu ses anciennes possessions, ainsi que leur population, avant tout comme des partenaires, et des partenaires d'échange, là où historiquement, la France de la Troisième République, avec ses tendances à la fois jacobines et universalistes, se voyait comme le devoir de si, entre guillemets, hein, pour reprendre les mots de Jules Ferry, le devoir de civiliser les races inférieures. Il y avait aussi ça, un peu, bien sûr, de la démarche britannique, mais de la démarche française, c'était beaucoup plus évident. Et puis, il y a aussi le style des dirigeants. Je pense que ça compte. Quand, lorsqu'on parle d'histoire, lorsqu'on parle de politique, le style, la personnalité, la capacité à réaliser une bonne diplomatie dépend avant tout des personnes. C'est quand même les personnes qui font l'histoire. Et Elisabeth II, de ce point de vue-là, a été remarquable, peut-être davantage efficace dans cette façon de créer cette grande famille que certains de nos présidents, y compris actuels, qui parfois sont un peu, voire très paternalistes dans leur rapport à certains pays, notamment africains.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne reviendra pas sur tous les épisodes, mais c'est vrai qu'il est frappant, notamment en Afrique, de voir aujourd'hui le recul considérable de l'influence française sur le plan de la sécurité, sur le plan de la défense. Aujourd'hui, on est complètement dépassé par la Russie, qui a multiplié les accords de coopération et de défense au cours des 10 dernières années en Afrique. Et il est d'ailleurs frappant de voir qu'au moment de la guerre en Ukraine, c'est qu'on le veuille ou non, le récit russe, c'est le narratif russe qui l'emporte en Afrique. Et puis on voit une explosion des manifestations anti-françaises, on l'a vu au Mali récemment, mais on le voit aussi aujourd'hui au Niger, on le voit dans pas mal de pays de la région. Sur le plan économique, il est également frappant, quand on regarde l'évolution sur les 10 dernières années, de voir combien la part française a diminué au profit notamment de la Chine, mais également des pays du Golfe qui aujourd'hui accroissent considérablement leur influence en Afrique. Et puis, comme tu l'as dit, tout ça parce qu'il y a notamment eu des erreurs diplomatiques assez fortes. Alors, parfois, des propos maladroits. On se souvient du discours du président Sarkozy sur l'homme africain qui ne serait pas encore rentré dans l'histoire, qui avait créé une forme de polémique très forte. Et puis aussi des interventions qui ont eu des conséquences désastreuses. On pense aussi évidemment à l'intervention en Libye, qui même si elle était justifiée pour des raisons humanitaires à l'époque, et ça on l'avait évoqué lors du dernier épisode, avait ensuite généré une grande déstabilisation de la région subsaharienne.
Sans parler de la confusion parfois au Maghreb aussi, hein, entre des choix ou plutôt des non-choix sur des questions importantes comme celle du Sahara occidentale, qui contribue à créer une image de la France détériorée.
Tout à fait. Mais je crois que ça serait un très très vaste débat. Et comme tu le disais, il y a évidemment la figure de l'incarnation et c'est effectivement ce qu'avait su apporter Elisabeth II. Et on souhaite à Charles III d'être capable d'incarner la même chose à la tête du Commonwealth.
Il y aurait beaucoup de points à évoquer, peut-être aussi le rapport à la repentance, qui n'est pas exactement le même au Royaume-Uni et en France. Je ne suis pas sûr que notre rapport à la repentance nous rende très attractifs. Mais la mort de la reine, au-delà de l'émotion, a mis fin, en tout cas en France, et pour quelques jours, à des débats fondamentaux qui avaient été lancés, notamment autour des barbecues, des jets privés, des chars à voile et de la conscience écologique de joueurs ou entraîneurs du PSG. Je rappelle bien sûr la scène que beaucoup ont vue parce qu'elle a pas mal tourné. C'est cette scène d'une conférence de presse du Paris Saint-Germain la veille d'une rencontre de Champions League où un journaliste demande à l'entraîneur Galtier et à Mbappé si le club compte faire davantage attention dans sa politique de déplacement à la dimension environnementale après que le club a osé réaliser un déplacement à Nantes en jet privé. Donc les deux éclatent de rire. L'entraîneur du PSG répond qu'il étudie la possibilité de faire les déplacements désormais en char à voile. Et à partir de là, déchaînement médiatique. Il va de soi que la ministre des Sports, Mme Hidalgo, passant par foultitude de parlementaires, les condamnations furent immédiates, unanimes. Et puis le lendemain, sur ce grand réseau de la générosité et de l'éveillement désintéressé qu'est LinkedIn, dans l'après-midi, quiconque n'avait pas condamné à son tour Galtier ou Mbappé pouvait apparaître pour le pire des climato-sceptiques. Je caricature, bien sûr, à peine. Mais bien qu'anecdotique, ces polémiques sont assez révélatrices, je pense, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu, de notre rapport à la question environnementale qui, par son incontestable importance, bien évidemment, mérite beaucoup mieux.
Oui, j'aime ton ton ironique, Romain. Je crois que, comme tu l'as dit, hein, il n'est évidemment pas question de remettre en cause, surtout après un été qui nous a quand même montré, s'il fallait encore, toute la gravité du changement climatique, l'importance et l'urgence de ce problème. La question, je pense que tu voulais mettre sur la table, c'est probablement comment on en parle aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que quand on parle de questions environnementales, immédiatement, on va sur le terrain de la morale, sur le terrain de l'accusation. Il faut trouver des boucs émissaires. Et moi, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais allé en Virginie-Occidentale, qui est un État très pauvre, le plus pauvre des États-Unis, qui est juste à l'ouest de Washington, et qui est un État où il y a beaucoup de mines de charbon. Et j'y étais allé au moment de la campagne, puisque je suivais la campagne entre Trump et Clinton à l'époque. On était en 2016. Et j'étais allé dans un petit village, dans un diner. Et j'étais allé parler à une serveuse, qui était une dame qui avait une soixantaine d'années. Et je lui avais demandé ce qu'elle pensait de la campagne présidentielle. Et à l'époque, elle m'avait dit, bah, vous savez, Clinton est venu il y a 2 mois et elle a dit qu'on allait fermer toutes les mines de charbon. Et puis ensuite, Trump est venu 1 mois plus tard et il a dit, on va garder ouvertes toutes les mines de charbon, on va en ouvrir même des nouvelles. Bah, elle dit, vous savez, moi, je vais voter pour Trump. Et puis elle me regarde et elle me dit, mais vous savez, je ne suis pas quelqu'un de moins bien que vous. Je sais très bien que les mines de charbon détruisent notre environnement, détruisent, polluent aussi l'eau que l'on consomme, etc. Mais si on ferme la mine de charbon, mon fils, qu'est-ce qu'il fait ? Mon mari, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas d'amortisseurs sociaux chez nous. Et derrière ces mots, il y avait cette idée aussi que ce n'est pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire un vote en fonction de considérations écologiques qu'elle était quelqu'un de moins bien que des élites urbaines qui pouvaient se permettre de lui faire la morale. Et ensuite, moi, j'ai toujours été frappé de voir aux États-Unis, dans certaines élites urbaines progressistes, des gens qui faisaient la morale à l'égard de ces électeurs de Trump, etc. Mais certains ne peuvent pas se le permettre. Et moi, je trouve toujours en France frappant, surtout après le mouvement des Gilets jaunes, etc., que plutôt que d'être toujours dans la condamnation morale, on ne se pose pas la question de savoir comment, sur la question environnementale, on peut déjà permettre au plus grand nombre de justement pouvoir changer leur comportement. Et plutôt que de toujours les accabler, comment justement on les met à bord ? Comment on met à bord nos concitoyens les plus modestes sur cette question environnementale ? Parce qu'on arrivera à changer les choses que si c'est une question qui est partagée par toute la société. Si c'est simplement pour quelques élites parisiennes, bobos s'y intéressent et se donnent bonne conscience sur ce sujet-là, on n'arrivera pas à changer les choses. Et donc, je pense que c'est un petit peu le point que tu voulais aborder, mais moi, j'aimerais bien avoir ton avis.
Oui, et en plus, tout ça sointe le mépris de classe, puisque, rappelons-nous, d'un précédent ministre, sous le précédent gouvernement, qui avait un peu vilipendé cette France qui roule au diesel et fume des clopes, voilà, en disant, ça, ce n'est pas notre électorat. Donc voilà, je pense qu'il y a ce mépris de classe qui est toujours en fond, alors que la gravité de la situation environnementale mérite bien sûr beaucoup, beaucoup mieux. Et sur la question environnementale, finalement, puisque tu parles de mots et donc de communication, on retrouve un peu les mêmes mécanismes de communication sur d'autres thèmes, à savoir, premièrement, on balance beaucoup de morale pour cacher une impuissance, voire une incompétence. Et je pense que si la morale envahit le champ politique, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être sur le coup, et ça on en parlait dans des épisodes précédents, d'un affaiblissement de certaines vertus civiques et de la connaissance des fondamentaux politiques. Dans ce cas-là, on met de la morale ou de la magie. C'est aussi sous l'effet de la percée d'extrémistes qui, à travers l'histoire, ont toujours voulu laver plus blanc que blanc, la dimension moralisatrice, presque religieuse, dans certains mouvements extrémistes, et notamment d'extrême gauche, a toujours été présente. Souvenons-nous de certains épisodes de la Révolution française. Et puis, peut-être aussi, c'est parce que, et peut-être même surtout, et plus généralement, parce que le vrai pouvoir d'action a quitté le champ exclusif de la politique, et ça, d'ailleurs, c'est en partie tant mieux. Et quand on ne peut plus agir ou moins agir, ben, qu'est-ce qui reste ? L'exhortation ou l'admonestation morale. Et tout ça, en plus, permet d'entretenir un débat souvent médiocre, un peu de clash, qui peut faire parler de soi. Et bon, enfin, vanité des vanités, comme dirait l'Ecclésiaste. Et puis, un autre mécanisme, je pense, qui est important et qui est dramatique, c'est que on préempte ces champs d'action moraux et puis on ne s'occupe pas en fait de ce qui relève vraiment de son ressort. Donc par exemple la ministre des Sports qui bondit sur son compte Twitter pour sermonner Galtier et Mbappé, mais qui ne pipe mot après une défiante enquête de SoFoot sur certains comportements à la Fédération française de football. Voilà, là peut-être c'est ce qui dépend vraiment de son ressort et de ses compétences. Donc c'est un peu un écran de fumée permanent qui nuit à la qualité du débat et à la qualité des réflexions sur la crise environnementale, qui encore une fois est extrêmement sérieuse, mérite des réflexions et des solutions à la fois, on va dire, technologiques, techniques, de changement de certains modèles, bien évidemment, et puis aussi, qui est une question, et ça, les élus locaux sont beaucoup plus engagés, il y a beaucoup moins de palabres et souvent beaucoup plus d'efficacité, c'est aussi des réponses au quotidien. Je pense qu'on parlait la dernière fois du principe de subsidiarité, il y a beaucoup de choses de réflexions stratégiques au niveau mondial sur la question environnementale, mais il y a beaucoup de questions, de défis au niveau local.
Non, c'est vrai, et je pense que le problème d'avoir cette société qui est peuplée de ce que j'appelle des Fouquier-Tinville des temps modernes, tu évoquais la Révolution, de gens qui jugent et jettent l'anathème sur les réseaux sociaux, parfois d'ailleurs de manière anonyme ou via d'autres canaux, c'est le problème, c'est que dans leur bêtise, ces gens-là ne comprennent pas que l'ordre moral évolue et qu'en fait, eux-mêmes peuvent se retrouver demain les victimes d'un nouvel ordre moral. Et puis plus généralement, je trouve que ça pose un problème, cette forme de manichéisme, ce mélange de politiquement correct et de bienséance hygiéniste qui fragilise notre démocratie. Pourquoi ? Parce que ça affaiblit aussi, par définition, le pool de personnes qu'on a dans notre vie politique. Les êtres qui ont marqué le XXe siècle, c'était des êtres qui étaient pleins d'aspérité. C'était des Churchill, des Clémenceau, des gens qui, aujourd'hui, ne passeraient pas entre les fourches codines de la transparence ou de l'hypermoralisation de la société. Mais parce que c'était des êtres qui avaient des aspérités, qui étaient libres, c'est des gens qui ont été capables de faire de grandes choses. Et je crois que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on aimerait aussi des responsables politiques, des dirigeants sans aspérité, lisses, etc. Mais c'est pas ces gens-là qui sont capables de faire de grandes choses. Donc je crois qu'il faut aussi arriver à retrouver un équilibre dans notre exigence par rapport à certaines élites, etc., en se disant il faut qu'on arrive à accepter le fait que si on veut des gens qui ont une profondeur historique, qui ont une force de caractère, il faut aussi accepter des êtres qui ont des aspérités. Alors évidemment, tout ça dans le respect de certaines règles, etc., mais je crois que les figures qui nous ont marqués, toi et moi, dans l'histoire, c'était pas des figures qu'on pouvait enfermer dans des cases manichéennes ou bien qui étaient des parangons de la morale.
Un aspect, tout ce que tu dis, bien sûr, je le partage, et je crois que sur l'aspect de la morale, qui était le premier point, elle envahit absolument tous les champs d'action aujourd'hui, parce qu'elle concerne les politiques, elle concerne aussi souvent les footballeurs. Là, en l'occurrence, ça partait du football, mais ça peut concerner aussi les acteurs, les footballeurs qui devraient être exemplaires, etc. Alors, bien entendu, à titre personnel, tu peux l'imaginer, je préfère les footballeurs qui donnent une image positive, élégante du sport, mais je trouve cela particulièrement agaçant lorsqu'on exhorte les footballeurs à être des références morales, et plus encore quand ces exhortations viennent de politiques qui ne cessent de dégrader, par tout ce qu'on vient d'évoquer, et par des voies, bien sûr, encore plus diverses, leurs fonctions et la politique, lorsqu'on fait des procès à des Ribéry ou d'autres, parce qu'ils ne se sont pas des modèles moraux, je trouve ça... Là encore, cela soigne totalement le mépris de classe, et je trouve ça toujours détestable.
Mais Romain, ne nous inquiétons pas, car cette semaine a été lancée ce qui devrait être la solution à tous les problèmes, à savoir le Conseil national de la refondation. Alors plus sérieusement, il a été lancé donc jeudi dernier par le président de la République. Il avait été annoncé donc en juin, au moment des élections législatives. Et alors, le président l'a présenté comme une sorte de forum où les différents acteurs de la société, responsables politiques, mais aussi syndicaux de la société civile, pourront échanger et débattre des grands défis auxquels est confrontée la société française, que ce soit notamment la question des services publics, l'hôpital, l'école, la question de sécurité. Et donc, avec cette idée qu'il faut revivifier la démocratie française, qui serait en crise. Alors ça a été un petit peu la manière dont il a été présenté par la majorité et le président de la République. Ça lui a valu de nombreuses critiques de la part des oppositions, notamment qui ont dit que c'était une manière d'affaiblir et de marginaliser le Parlement. Moi, j'aimerais savoir, toi, ce que tu en penses, quel est ton regard sur ce nouvel outil qui vient d'être lancé et que le président de la République veut mettre un petit peu au cœur de son second mandat.
Oui, alors là aussi, comme il a été lancé jeudi, le jour de la disparition d'Elisabeth II, effectivement, l'impact médiatique a été plus faible, même si les polémiques sur le lancement de ce CNR ont précédé sa création, puisque finalement, le fait que des oppositions importantes, comme le président du Sénat, l'aient remis en cause avant même qu'il ne soit lancé, a créé du débat. Donc, qu'il faille raviver, renforcer la démocratie, c'est une chose, qu'on puisse envisager des solutions inventives, un peu différentes, pour accoucher de bonnes idées, de consensus. Bon, pourquoi pas, on peut toujours rêver, puis faisons confiance au produit a priori. Mais moi, j'ai l'impression que de telles initiatives apportent davantage de confusion qu'autre chose. Et plus que renforcer, cela sape en partie les fondements de la démocratie représentative. Parce qu'en théorie, il y a des lieux, à commencer par le Parlement, composé de représentants du peuple, pensés non seulement pour délibérer sur ces sujets, mais aussi pour créer le droit. Ce n'est pas seulement de la délibération, de la discussion, c'est aussi de la législation. Là, nous avons une nouvelle instance consultative composée de toutes sortes d'interlocuteurs, dont certains ont bien sûr une légitimité démocratique, à commencer par les représentants d'élus locaux, mais la plupart, pas forcément, et beaucoup ne sont pas, sans faire insulte à leur talent, de première fraîcheur. Donc politiquement, c'est relativement habile, parce que c'est un moyen de faire diversion sur les difficultés au Parlement. C'est aussi un moyen de distribuer quelques nouveaux fromages, hein, ça fait jamais de mal. Mais c'est aussi risqué, parce qu'il y a un risque de décevoir, parce qu'une nouvelle fois, il y a ce risque que non seulement cela ne débouche sur rien, cela crée de nouveaux mécontentements, car des attentes qui vont être déçues, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus des attentes délirantes au sujet de ce CNR. Et puis, encore une fois, le Parlement reste le seul légitime pour écrire la loi, donc ces mesures, beaucoup de mesures qui pourraient sortir ne verront pas forcément le jour. Et puis, en deux mots, il y aurait aussi beaucoup à dire sur la méthode globale et la communication, rien que le nom, hein. Il y a quand même un décorum autour de ce CNR qui est un clin d'œil assez lourd et on pourrait même dire peut-être un peu indécent au Conseil national de la Résistance. Et puis, il y a aussi la question que faut-il refonder ? C'est une vraie question. On sait, bien sûr, on discute souvent dans nos émissions qu'il y a beaucoup d'éléments de notre démocratie, dans nos démocraties occidentales, dans nos économies, à repenser, notamment en lien avec la question écologique. Mais là, les objectifs demeurent assez flous, puisque dire qu'il faut trouver des consensus, bon, personne ne peut être contre, mais la méthode est beaucoup plus dangereuse. Donc c'est un peu, il y a à craindre que ce soit inutile et incertain.
Oui. Ce qui me frappe, c'est plusieurs choses. D'abord, si on fait un parallèle avec 2017. En 2017, le président Macron était élu, il y avait une forme d'élan, il y avait un cap, et il y avait eu un début de mandat, il faut le reconnaître, où il y avait eu quand même beaucoup de réformes qui avaient été menées, une modernisation du marché du travail, la suppression de l'ISF, une réforme de la SNCF, etc., etc. Depuis la crise des Gilets jaunes et puis la crise du Covid, alors on peut considérer qu'il y a des raisons qui l'ont tout à fait justifié, il y a eu une mise en parenthèse de toutes ces réformes. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est alors qu'il entame son nouveau mandat, on a du mal à voir le cap, en fait. Quelle est la direction ? Où est-ce qu'il veut amener le pays dans les 5 ans ? Et ça, le CNR, je suis désolé, n'y répond pas. Il y a quand même, je pense que pour un moment donné, créer un élan dans un pays, il faut quand même dire, voilà, les 5 prochaines années, notre objectif, c'est ça. Quand Pompidou dirigeait la France, il avait un objectif clair qui était de moderniser la France, créer de la prospérité et renforcer à tout prix son industrialisation. C'était son objectif. Aujourd'hui, quel est l'objectif du président Macron sur le second mandat ? On a du mal à le voir et le CNR n'est pas une réponse. Deuxièmement, moi, ce qui me gêne, c'est que le problème de tous ces forats de dites de démocratie participative, et tu le disais, c'est que est-ce que c'est vraiment ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les citoyens qui y participent ? Non. Souvent, ce sont des forats qui sont complètement dominés par des activistes, des militants, des lobbyistes, des experts avec leurs marottes. Et donc, au final, je ne suis pas du tout sûr que ce soit particulièrement représentatif. Et ce qu'on a vu, c'est que les exemples, parce que ce n'est pas quand même le premier, on a quand même eu toute une série de structures un petit peu similaires, des Grenelles, des États généraux à peu près dans tous les domaines. On a eu la Convention citoyenne pour le climat, les États généraux de la bioéthique qui ont eu des résultats très mitigés. Soit ils n'ont pas été pris en compte, par exemple, sur les questions de bioéthique, soit sur la Convention citoyenne pour le climat. On s'aperçoit aujourd'hui que deux des sujets phares, que ce soit la question du nucléaire ou la question du prix du marché du carbone, avaient été écartés. Alors qu'aujourd'hui, elles sont au cœur aujourd'hui de toutes les questions relatives à la transition climatique et à notre dépendance énergétique. Et puis enfin, et tu l'as dit, moi, ce qui me gêne beaucoup, et je crois que toi et moi, on est très attachés à nos institutions, à avoir un exécutif fort, à la Ve République, mais on est aussi attachés au Parlement. Et aujourd'hui, le Parlement, bah, peut-être qu'il a ses limites, ses failles, mais il est élu au suffrage universel. Et on a des élus de la nation qui ont des permanences, qui reçoivent quotidiennement, qui sont sur le terrain chaque semaine. Et ce sont, je trouve, enfin, c'est les élus de la nation. À eux de faire leur travail. Et je trouve que si on se plaint de l'abstention, par exemple, lors des élections législatives, je pense que c'est certainement pas une bonne manière de lutter contre l'abstention que de dire aux Français, bah, finalement, on va recréer une structure à côté qui va faire ce travail de concertation qui devrait être fait au Parlement. Et que la question qu'on devrait se poser plus tôt, c'est comment on donne au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale, les moyens de faire son travail correctement aujourd'hui. Quand tu vas aux États-Unis, par exemple, un sénateur, il a un staff en moyenne de 50 personnes autour de lui. 50 personnes, y compris des doctorants, des gens spécialistes sur toutes les questions, etc. Évidemment, on n'aura pas 50 personnes par député, mais peut-être un petit peu renforcer les équipes des députés pour leur permettre de mieux maîtriser les dossiers, ça serait un premier pas. Réduire, et c'est ce que voulait le président, peut-être aussi la taille de la représentation nationale pour avoir des députés mieux équipés, ça serait aussi probablement une solution. Et puis on dit, mais oui, mais il faut que la société civile soit impliquée. Mais oui, mais c'est ce à quoi servent les auditions au Parlement. Pourquoi, si on veut absolument écouter des experts, avoir des rapports, etc., très bien. Mais il y a des auditions qui sont faites par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Donc, donnons au Parlement le moyen de faire les choses. Et puis, dernier point, et je terminerai là-dessus, on parle beaucoup de démocratie participative, mais moi, je crois que c'est surtout beaucoup au niveau local que les gens veulent plus pouvoir s'impliquer, au niveau de leur commune, au niveau de leur département. Et donc, je pense que la question, c'est aussi comment, par une décentralisation plus forte, tu redonnes des leviers d'action aux élus locaux et aux gens sur le terrain. Donc, pour toutes ces raisons, je crains effectivement que le CNR finisse par être un petit peu une usine à gaz qui aboutira pas à grand-chose, si ce n'est être un accélérateur de carrière pour quelques personnes qui seraient impliquées de près ou de loin.
Oui, alors, je suis d'accord, à une exception près, avec ce que tu viens de dire. Bien évidemment, oui, je sur les limites et sur les biais énormes que ces conventions citoyennes, appelons-les comme on veut, portent en elles, est important dans le recrutement, dans la méthodologie, dans l'encadrement. On l'a vu dans la convention pour le climat, leur méthodologie n'est pas innocente, bien évidemment. Donc rien ne vaut, même si c'est décrié, même si c'est affaibli, les mécanismes de la démocratie représentative qu'il faut améliorer. Donner plus de moyens au Parlement, le respecter, ne pas annoncer qu'on va créer cette instance quelques jours avant des élections législatives, ne pas déconsidérer les parlementaires, ne pas non plus créer un régime totalement de partis qui peuvent envoyer des profils plus ou moins bons à l'Assemblée. Le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur la baisse du nombre de parlementaires. Je ne suis pas sûr que cela crée beaucoup d'opportunités dans un moment où il y a quand même besoin de représentation. Je crois que s'il devait y avoir moins de députés demain, il y aurait des territoires qui perdraient tout simplement, hein, mathématiquement, leurs représentants. Donc je pense que c'est pas très bon. Le coût de la démocratie a un coût, souvent par un peu de démagogie, certains voudraient le réduire. Il y a de mauvais ton de dire que les élus sont pas assez payés, mais c'est peut-être un vrai problème. Il faut que la démocratie et l'engagement politique restent quand même aussi attractifs. Mais à part ça, je suis totalement d'accord avec tes solutions.
Mon cher Romain, en termes de représentation, ne t'inquiète pas, on fera en sorte que ni la Corse ni l'Auvergne ne soient affectés.
Bon, alors c'est l'essentiel, mais écoute, c'est le cas de partout, campagne comme ville. Mais bon, on a tout le temps d'en reparler avant les législatives, les prochaines, qu'elles aient lieu dans 5 ans ou qu'elles soient anticipées. C'est le moment, Jérémy, de parler de nos coups de cœur de la semaine. Et toi, tu voulais parler non pas de roi, mais de monarques républicains ou de grands dirigeants républicains.
Tout à fait. Non, je voulais évoquer une très belle série documentaire qui est actuellement diffusée sur Arte, qui est intitulée Les Roosevelt, une histoire intime. C'est une série de documentaires qui suit la vie des Roosevelt, de Theodore Roosevelt, donc le 26e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, le 32e, évidemment, très grand président américain, artisan du New Deal, président américain durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à Eleanor Roosevelt, sa femme et grande figure aussi de l'histoire américaine. Et donc, ça couvre un siècle d'histoire américaine, puisque Theodore naît en 1858 et Eleanor meurt en 1962. Et c'est ce siècle où les États-Unis vont enfin assumer d'être la grande puissance mondiale, d'être une superpuissance. Et finalement, ça, c'est Theodore Roosevelt qui le porte. Ça nous transporte à travers la Première Guerre mondiale, mais à travers aussi la Grande Dépression, ces années qui sont décrites de manière si belle dans sa littérature par Steinbeck, évidemment le New Deal, et puis la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. C'est une série documentaire magnifique, ça montre combien, on parlait tout à l'heure, tu sais, d'hommes d'État qui ont des aspérités. Bah, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, c'était des grands hommes qui avaient leurs faiblesses, leurs failles. Je pense que Franklin Delano Roosevelt n'aurait jamais été l'homme et le leader qu'il a été s'il n'avait pas été frappé par la polio, parce que ça a créé chez l'homme, finalement, chez le jeune homme arrogant, prétentieux, plein de succès qu'il était, une faille qui lui a permis à un moment donné de créer un lien avec cette population américaine, notamment lorsqu'elle souffrait dans les années 30. Et ça lui a donné une résilience extraordinaire. Donc ce documentaire est magnifique, il est produit par Ken Burns et surtout, c'est juste, alors ça peut paraître anecdotique, mais un des intervenants que l'on voit souvent dans ce documentaire, c'est David McCullough, qui était au moins un des plus grands historiens américains contemporains, qui était un petit peu cet homme assez âgé, toujours avec sa veste de tweed, très élégant, de la Nouvelle-Angleterre, avec une voix de vieux gentleman charmant, et en fait qui était un grand historien américain, biographe de Truman, de John Adams notamment, et qui nous a quittés au début du mois d'août. Et je trouve que c'est un bel hommage aussi à ce grand historien que de regarder ce documentaire. Donc je vous le conseille vivement. Toi, je crois, Romain, que tu avais une recommandation complètement différente.
Oui, je vais, comme la semaine dernière, je vais parler de musique, mais toujours un peu de musique et politique, ou plutôt musique et histoire. Alors, ce n'est pas du tout un coup de cœur récent, parce qu'il s'agit d'un album qui m'accompagne depuis longtemps déjà, qui s'appelle Arthur, of the Decline and Fall of the British Empire, et c'est des Kings. Alors, bien sûr, je l'ai réécouté ces derniers jours, par son lien évident avec l'actualité et la monarchie. Les Kings, c'est un des groupes anglais, des plus grands groupes anglais des années 60, probablement mon préféré, avec bien entendu les Beatles. Et leurs textes sont comme leur musique, fins, élégants, ciselés. Ce sont toujours des petites vignettes décrivant parfaitement la société britannique d'alors. Et dans cet album, qui date de 1969 et qui aurait dû être transposé en film ou télé, ce ne fut pas le cas pour diverses raisons. Donc dans cet album, on raconte le destin du Royaume-Uni au XXe siècle, via un personnage, Arthur, très représentatif de la classe ouvrière, qui naît à la fin du règne de Victoria, qui voit son frère mourir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui va arriver tout de même, grâce aux fruits de son labeur, à atteindre un confort moderne, qui va connaître bien sûr la dureté et les privations de la Deuxième Guerre mondiale, qui va voir ses enfants partir chercher la prospérité, ou du moins une vie meilleure dans d'anciennes possessions britanniques, en l'occurrence l'Australie. Et voilà, donc quelqu'un qui aura traversé son siècle en voyant son monde et son empire se bouleverser. Donc parmi, moi je trouve ça, c'est brillant, c'est musicalement formidable, et l'album parmi ces quelques titres phares, dont Victoria, qui est un cri d'amour nostalgique pour cette reine qui aura vu l'Empire à son apogée, mais également Some Other Son, qui est une chanson bouleversante sur 14-18, qui serait presque un peu à la musique ce que le Dormeur du Val est à la poésie de Rimbaud. T'as Mr. Churchill Says, qui est la mise en musique du célèbre discours guerrier de Churchill. Et puis Shangri-La, une très belle chanson des Kings sur un ouvrier qui arrive donc enfin au confort, au seuil de sa retraite, dans son pavillon. Et puis beaucoup d'autres, je pense que ça te plairait beaucoup. Des petits bijoux d'humour comme She Bows to Hat Like Princess Marina, qui raconte un personnage qui parvient à peine à nourrir sa famille, mais qui se sent comme un lord parce qu'il s'est acheté un chapeau comme celui d'Anthony Eden. Voilà. Donc, comme toujours avec les Kings, c'est harmonieux, intelligent, nostalgique, bien sûr, un peu espiègle, et puis tout de même patriotique. Donc, c'est un très grand album. Espérons qu'un jour, d'autres artistes pourront composer un concept album de ce niveau pour raconter le long règne d'Elisabeth II.
Merci beaucoup, Romain, pour ce très bel hommage aux Kings. C'est terminé pour nous aujourd'hui. Nous nous retrouverons dès mercredi prochain pour un nouvel épisode du Corse et de l'Auvergnat. Si vous avez aimé ce podcast et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast favori pour nous suivre et même rattraper les épisodes précédents. Merci, Romain.
À bientôt, à la semaine prochaine, Jérémy.